8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est professeure des universités à Paris Sciences et Lettres.
Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Il va y avoir une émotion et une tension hors normes tout à l'heure à l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre et un mot revient très souvent, c'est celui de vérité. Mais quelle vérité peut jaillir d'un tel procès? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore?
Beaucoup de choses, parce que l'interrogation, l'enquête judiciaire a permis, et on le voit parce qu'il filtre dans la presse en ce moment, de rétablir un certain nombre de connexions qu'on ne connaissait pas. Par exemple, on a vu des nouveaux personnages arriver, on a vu comment des liens avec ceux qui étaient en Syrie, ceux qui étaient en Belgique, ceux qui étaient en France, se sont tissés au fur et à mesure. Et ce qui est à attendre de ce procès gigantesque, qui va durer 9 mois et qui va du reste durer plus longtemps même que la campagne électorale pour l'élection présidentielle française, ça sera justement une sorte de mise à plat de ce qu'a été cette phase du djihadisme, celle qu'a été initiée par Daesh. Et la coïncidence très frappante est que ce procès commence au moment où l'on va commémorer l'anniversaire donc du 11 septembre 2001. Qui était la phase précédente, celle d'Al-Qaïda, d'avant Daesh, mais qui a été l'élément qui a, si j'ose dire, créé le moment d'enthousiasme, entre guillemets, pour les djihadistes, y compris après la disparition d'Al-Qaïda. Et ça se produit aussi au moment où il y a la chute de Kaboul, de nouveau, les talibans reviennent. Oui. Et donc, si vous voulez, tous ces éléments forment une sorte de puzzle qui permet, si c'est bien fait, de mieux comprendre ce qui nous arrive, le monde
dans lequel
nous vivons.
Parce que vous avez travaillé, Gilles Kepel, sur toutes ces phases finalement du djihadisme. Et est-ce que ce procès va permettre aussi de mettre en lumière un manquement, en tous les cas, dans notre manière d'appréhender le terrorisme? C'est qu'on a cru qu'il y avait des loups solitaires.
Oui, probablement. Et ce qui est aussi très nouveau dans ce procès, c'est que la justice a décidé de faire appel pour la première fois à des universitaires qui n'ont rien à apporter sur le plan de l'instruction comme telle et de la culpabilité ou non des uns ou des autres, mais qui peuvent fournir les effets de contexte.
C'est ce que vous allez faire? Parce que vous allez témoigner, intervenir,
oui,
vous allez fournir cette lecture-là.
Ce que je vais déclarer, évidemment, ouais. Je ne peux pas en parler.
Bien
avant,
sûr, on va
mais
pas le déflorer.
C'est en fait l'objectif, moi-même, d'autres également, c'est justement de permettre de considérer que ce procès, cette affaire, si j'ose dire, est un fait total qui n'est pas, qui est bien sûr l'objectif de la justice, c'est le jugement, la vérité, c'est qui se traduit par des condamnations, des acquittements, mais la dimension du contexte est importante. Et vous avez parlé des loups solitaires. En effet, je crois que ça a été, à mon sens, un assez gros manquement dans le passé. Cette pseudo-catégorie a été utilisée, par exemple, pour parler de l'affaire Mera.
Bien sûr.
Et en fait, Mera et toute sa famille étaient dans des réseaux qui passaient par la fameuse communauté d'Artigat.
Comment expliquer, Gilles Kepel, qu'on n'a pas compris à ce moment-là, et avant quand même, au moment des attentats du 13 novembre, que ces loups solitaires n'existent pas, qu'il y a un réseau, qu'il y a des ramifications?
Probablement parce que le monde de l'administration pense assez largement en silo, si vous voulez. Et ça, c'est l'un des problèmes. Enfin, la France est un pays très organisé, parce qu'en général, en principe, quand des ordres viennent d'en haut, ils sont censés être transcrits jusqu'en bas. Mais la contrepartie, c'est que on va assez peu chercher les ressemblances entre les choses, et que du coup, pour des raisons aussi qui tiennent à la légitimité des décisions, etc., on a tendance à s'enfermer dans des catégories.
Donc on s'est enfermé dans la croyance qu'il y a des loups solitaires, alors qu'il y avait des réseaux, des ramifications,
oui, en fait,
qui se préparaient à nous frapper.
Oui, je crois que c'était aussi parce que le logiciel avec lequel on a pensé au départ, c'était celui d'Al-Qaïda. Al-Qaïda est un système pyramidal. Ben Laden donne des ordres à des gens qui vont piloter, va les faire apprendre à piloter, les envoie sur les tours jumelles et sur le Pentagone. Mais au fond, dès 2005-2007, les leçons de l'échec sont tirées par ce qui va donner les gens de Daesh.
Dès 2005-2007.
Oui, le livre d'Abou Moussab Soury, qui est le principal penseur de cette mouvance, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu, qui s'appelle en arabe, enfin, traduit « appel à la résistance islamique mondiale », précise justement la notion de réseau par opposition à la notion d'organisation.
Mais alors, je vais vous poser une question naïve. Vous l'avez vu à ce moment-là?
J'ai lu le livre, j'en ai même traduit.
Et nos services sans les accabler? Normalement, quand ils voient ça, ils se disent les loups solitaires n'existent pas.
Ça, je ne suis pas dans leur tête.
Bon, mais on comprend.
Vous leur poserez la question.
Bien.
Mais en tout cas, on avait identifié le logiciel un certain temps avant, et c'est vrai que quand on a entendu ce qui s'est passé, ça nous a un peu surpris. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a eu une prise de conscience véritable, et c'est ainsi personnellement que j'interprète la volonté qui a été déjà glosée. Hein, c'est pas moi qui le fais, du tribunal d'élargir son spectre
avec
de connaissances.
Vos témoignages, ouais. Et un universitaire et votre expérience évidemment à ce procès. On va parler des manquements, des failles éventuelles, beaucoup de choses, Gilles Kepel, ont été dites, et je voudrais qu'on écoute un autre témoin du procès, acteur de premier plan à l'époque, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui dénonce, vous allez l'entendre, il était hier à votre place, avec force les approximations et contre-vérités, dit-il.
Quand j'entends dans un reportage qu'il est dit que la BRI aurait été interdite d'intervenir par un ancien Premier ministre qui a été de surcroît ministre de l'Intérieur, je veux parler de Manuel Valls, au motif que le directeur de la BRI aurait pu le soutenir au moment des élections présidentielles. Dire des choses de cette nature dans un reportage, les laisser dire et les laisser diffuser, ne peut pas produire d'autres effets qu'une forme de nausée.
Il s'inscrit en faux dans les manquements de l'État. Un reportage qui affirmait que l'ancien Premier ministre Manuel Valls a interdit à la brigade d'intervention d'agir pour des raisons électorales, préférant la BRI.
Ça, je n'ai bien sûr pas les éléments pour en juger. Mais bien évidemment, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'interpénétration entre ces enjeux judiciaires, ces enjeux terroristes et les enjeux politiques centraux français est manifestée par le fait que ce procès va se dérouler en arrière-plan de toute la campagne présidentielle, et l'affaire Merah, je vous le rappelle, également est intervenue au moment de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy et au moment où François Hollande était candidat et allait l'emporter. Alors, tout ça, bien sûr, c'est un phénomène très complexe que nous devons essayer de comprendre dans toutes ses dimensions.
Comprendre, évidemment, mais est-ce que nous sommes encore naïfs, Gilles Kepel? Certains se demandent, est-ce que nos frontières sont moins poreuses qu'elles ne l'était en 2015. Qu'est-ce qu'il en est du suivi? Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet des radicalisés qui sortent de prison. Est-ce qu'on a véritablement retenu les leçons? Et pourriez-vous dire ce matin qu'il n'y aura pas d'autre 13 novembre?
Alors, un 13 novembre, disons, selon la formule qui a été celle qu'on a connue en 2015, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait des organisations djihadistes, en tout cas de ce que mes étudiants et moi-même qui suivons ça d'assez près, qui soient capables de le mettre en œuvre. On a aujourd'hui un autre modèle djihadiste, hein, c'est plus ni Al-Qaïda ni Daesh, c'est ce que j'ai eu l'occasion d'appeler dans un livre récent le djihadisme d'atmosphère, qu'on a vu se manifester l'année dernière avec l'affaire Anzorov, l'assassinat de notre collègue le professeur Samuel Paty, les deux personnes qui ont été blessées devant les anciens locaux de Charlie Hebdo par un immigré pakistanais qui savait même pas vraiment où il était mais qui a vu ça sur son téléphone portable, une manif au Pakistan, qui a voulu faire pareil, et puis l'attentat de Nice à Notre-Dame de l'Assomption par quelqu'un qui venait de traverser la frontière à Vintimille. Donc ça, c'est différent parce que vous avez des entrepreneurs de colère qui interviennent, qui bombardent les réseaux sociaux d'accusations, de ciblage, et puis vous avez des individus qui ont été préalablement formatés et qui, en voyant ça, vont décider de passer à l'acte. Alors, ce ne sont pas non plus des loups solitaires, parce qu'ils ont été, ils ont subi l'endoctrinement auparavant, mais pour les services de sécurité, c'est assez complexe parce que vous arrêtez quelqu'un ou vous le liquidez, et vous ne pouvez pas remonter une chaîne. Donc, ça passe par la c'est toute la question du monde digital aujourd'hui. Et de ce fait, il me semble que de même que le 11 septembre, c'était, l'aboutissement de la stratégie d'Al-Qaïda, de même que le 13 novembre 2015 était l'aboutissement de la stratégie de Daesh, là, on a un autre modèle. Et la différence entre aujourd'hui et ce qui s'est passé dans les époques révolues que vous évoquez, c'est que on est, je pense, beaucoup plus proche d'une capacité de comprendre en temps réel ce qui se passe. Vous voyez, si le modèle du djihadisme d'atmosphère est effectivement le bon moyen de comprendre, on peut saisir beaucoup mieux les enjeux et les défis.
Oui,
alors que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès 2008, personnellement, je publie quelque chose sur le système réticulaire de Daesh, mais ça passe à trappe.
Et comment on comprend tout ça dans un monde, et surtout à l'international, extrêmement mouvant et inquiétant? On pense à la prise de pouvoir en Afghanistan par les talibans. Tiens, d'ailleurs, une question, Jules Capel. Vous avez cru un moment qu'on pouvait avoir des talibans modérés, un gouvernement inclusif?
Non, ça ne m'a jamais beaucoup frappé. Je crois que les talibans ont la même idéologie que leurs parents. Ceux qui ont pris Kaboul avaient 20 ans, ont été formés dans les médressas pakistanaises ultra, qui sont les mêmes qui ont produit leurs parents. Et par exemple, je vois que la médressa de Monsieur Haqqani, qui est l'une des plus radicales, on a mis l'un de ses patrons ministre de l'Intérieur des talibans. Et,
ça ne vous surprend pas?
Non, pas tellement. Bon. Mais remarquez, d'une certaine manière, faire en sorte que ceux qui commettent le plus d'attentats soient à la tête du ministère de l'Intérieur, il y a une certaine logique dans la logique, j'entends, pas la nôtre. Et puis on a vu là l'esquisse gouvernement est tombée hier soir aux talibans, enfin les nouvelles est tombée, et donc ce sont les talibans de l'ancienne génération qui se sont répartis les postes. Donc il y a une très grosse continuité. Ce qui a changé, c'est l'environnement, c'est-à-dire que à l'époque on avait une polarité idéologique entre les États-Unis, il y avait encore la Russie qui était présente.
Et aujourd'hui,
c'est la Chine qui est devenue le grand antagoniste
des
États-Unis, qui a reçu les talibans en grande pompe.
Avec quand même, on peut le souligner, Jules Capel, aussi la Russie, la Turquie, le Qatar, il y a toute une lignée comme ça de pays dans le pragmatisme, on va dire, pour le moins proche
des talibans. Oui, qui s'efforcent. Alors, il y a tous ceux qui voient dans le succès des talibans une manière de poser des problèmes aux États-Unis. Dans les conflits qu'ils ont avec les États-Unis, bien sûr, et en même temps, aux États-Unis, il me semble que Biden ne se préoccupe pas outre mesure de l'affaire afghane, considère que c'est un épiphénomène, que
vous
ça fait une tempête pour
qu'il ne considère pas plus ses alliés.
Voilà, et surtout parce que lui a les yeux fixés sur les élections, encore, il n'y a pas que nous qui avons des élections, de mi-novembre 2022, et la société américaine, y compris l'électorat démocrate, en a marre de ce qui s'appelle les « endless wars », des guerres interminables, et si l'économie est repartie, il fait le pari que d'ici six mois, tout le monde aura oublié une info chasse l'autre.
Mais pour nous, qui peut croire aujourd'hui, Gilles Capel, qu'après l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, on peut encore exporter la démocratie, nos valeurs, comme une sorte de kit, comme ça, qu'on pourrait imposer?
Ça, c'est une vraie question qui se pose avec d'autant plus de force aussi depuis l'échec des printemps arabes. Ça aussi, ça fait 10 ans. C'était aux 20 ans du 11 septembre, mais aux 10 ans du déclenchement des soulèvements arabes qui avaient suscité un grand espoir et qui ont été complètement anéantis. Je vous renvoie à ce très beau livre du romancier égyptien Ala El-Aswani.
Magnifique. Tout est dit.
Je courais vers le Nil et analyse en détail la façon dont s'est produite la révolution et puis le retournement de la population.
Mais vous, Gilles Capel, est-ce que vous dites ce matin, c'est terminé, cette politique de la promotion, de l'exportation des droits de l'homme, de la démocratie exportable, elle est finie, elle est morte, elle est enterrée?
Alors, peut-être pas en ces termes-là, mais en tout cas, il est clair qu'il faut réfléchir à la manière dont on agit et qu'on ne peut pas plaquer des schémas ici sur des sociétés différentes. Alors, dire ça en même temps, ça a un côté assez terrible. Ça veut dire qu'au fond, il y a des populations qui ne peuvent être dirigées que par la dictature ou le fanatisme religieux.
Peut-être accepter qu'une partie des Afghans, une partie, je dis bien, est pour la charia. On peut le regretter, on peut le dénoncer, mais le comprendre aussi et ne pas fermer les yeux.
C'est indéniable, mais ce n'est pas seulement la charia, c'est aussi l'appartenance à des tribus, c'est aussi les solidarités plus anciennes. Et le problème va se poser également pour la France au Mali avec l'opération Barkhane. Le président de la République, d'ailleurs, a exprimé son exaspération la suite des coups d'État récurrents au Mali, avec les soldats français qui donnent leur sang pour cela et les contribuables français qui financent.
Vaste défi, voilà. Et beaucoup de questions. Merci pour votre éclairage, Gilles Kepel. Analyse toujours très intéressante à écouter. Merci encore à vous.
Merci Gilles Kepel, merci Sonia. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Le prophète et la pandémie. C'est paru chez Gallimard dans la collection Esprit du Monde avec de très belles cartes. Je le dis, c'est très éclairant pour comprendre les enjeux sur le plan géographique des cartes signées Fabrice Balanche. Merci à tous les deux.